Ben, je vais introduire le propos de Lia Arthur. Donc c'est vrai que cette année, on a décidé de faire trois soirées littéraires dans l'année pour aller plus en avant dans le côté pluridisciplinaire de l'ethnocafé. Hein. C'est souvent ça qui est remarqué, le côté médecine, le côté sciences humaines, le côté poésie et le côté littéraire. On s'est dit que peut-être on n'avait pas assez sa place à la littérature. C'est la deuxième que l'on fait, c'est ça?
Ouais.
Et du coup, Lia, tu vas nous emmener dans une longue route avec François Cheng. Donc,
j'espère que la route ne sera pas trop longue.
Je te laisse la parole.
D'accord, j'espère effectivement que je ne serai pas trop longue. Ça a été compliqué pour moi de faire cette soirée parce que ce livre est tellement foisonnant, tellement dense, que j'ai beaucoup de mal à sélectionner. Donc là, tout ce que je vais pouvoir faire ressortir, c'est des micro-pointes. Mais il faut vraiment lire le livre parce qu'il y a vraiment des fulgurances dedans au milieu des éléments autobiographiques. Donc François Cheng, alors... vous connaissez à peu près tous ou non, il y en a qui ne connaissent pas forcément. Ah non, ouais, ok. Donc il est né en Chine en 1929. Et il faut savoir qu'il est toujours vivant, mais très 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 âgé. Donc ça vous donne une idée, il a vraiment traversé le siècle. Donc il a vraiment traversé le siècle jusqu'à aboutir donc à l'intelligence artificielle. Donc il est né en Chine, donc il est d'origine chinoise, mais voilà, il a vécu la majeure partie de sa vie en France. Et je vais vous donner des éléments un peu autobiographiques, enfin des micro repères quand même, mais juste pour vous dire que voilà, il est intéressant parce que c'est un passeur. D'ailleurs, il y a Claude Roy qui lui avait décerné le titre de maître passeur parce qu'il s'est vraiment, à la fois, il est resté fidèle complètement à ses racines. Donc, il s'est inspiré et puis il a travaillé énormément sur la poésie chinoise classique et la philosophie chinoise, évidemment, et notamment le taoïsme et le bouddhisme Chan qui vont vraiment l'inspirer. Enfin, il en parle. En fait, ce livre, c'est vraiment... ça décrit vraiment ce carrefour en fait de la pensée, de la philosophie et de la poésie entre la voie du Tao et on verra plus tard ce qu'il appelle la voie orphique. Voilà. il va adopter complètement la culture et la littérature française dans laquelle il fondera son chant, ce qu'il appelle le chant. Il a vraiment été amené à fusionner les philosophies orientales et occidentales et à combiner à la fois son héritage chinois avec la culture française dont il est... il faut savoir que c'est quelqu'un qui est fini très très érudit. Donc je vous donne deux, trois petits repères autobiographiques quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Donc déjà, Une longue roue, c'est un livre autobiographique qui répond à la nécessité du poète de livrer son expérience, notamment de l'exil, et de raconter comment il a rejoint le chant français contre vents et marées. Donc un des éléments décisifs de son histoire, qu'il faut quand même préciser, parce que ça aura beaucoup d'importance après sur sa conception des choses, c'est la guerre, puisqu'en 1937, le Japon part à la conquête de la Chine. On va à la fois assister à des grands mouvements d'exode de population vers les provinces intérieures. Lui-même va fuir les ravages de la guerre avec sa famille, etc. Et toute sa vie, en fait, il va rester parce qu'il était déjà dans une forme d'exil, en fait, quelque part à ce moment-là. Et il va rester vraiment marqué par cette question, en fait, de la violence. Et il va chercher un peu toute sa vie comment, dans son engagement littéraire et spirituel, une forme de, on va dire, de rédemption, de sagesse, peut-être possible, et qui lui permettront vraiment de réaffirmer toute la puissance de la beauté sur la barbarie humaine. Donc il raconte aussi ses visions très très contrastées, où en 1937, donc il âgé je crois de 8 ans, et lui il a trouvé refuge avec son père, sa famille en fait, en haut d'une montagne, et le mont Li je crois, Et il décrit des scènes très très poétiques où il a voilà, la neige qui tombe, enfin, c'est des scènes incroyables. Et il dit voilà, alors qu'en bas, effectivement, juste en bas, sa patrie était à feu et à sang, puisque les Japonais voilà, ont commis ce qu'on appelle le massacre de Nankin, où ils ont tué 300 000 personnes. Et il dira que voilà, l'irruption du mal radical dans ma conscience d'enfant de 8 ans déterminera pour toujours l'orientation de ma quête. Aucune vérité ne serait valable si elle ne tient pas compte de ce phénomène humain impossible à contourner. Donc il situe, ça va pour tout le monde ?
Ouais. Oui, oui.
Il situe son l'année de son éveil en poésie à 15 ans, où il participe en secret à un concours de poésie et il va obtenir le deuxième prix. Et c'était sur l'eau, enfin le titre qu'il a donné c'était sur l'eau. Donc il s'interroge encore, il y a tout un passage magnifique, pourquoi ce thème de l'eau ? Et il explique qu'à 15 ans, en fait, ses intuitions poétiques étaient complètement désordonnées, mais qui pressentaient déjà, en fait, quelque chose comme la voix du Tao, c'est-à-dire qu'en fait, comme si tout pouvait être signifiant, métaphorique, et comme si tout pouvait être relié à un courant vital, en fait, qui ne s'épuise jamais et qui va être relié à la fois à la terre, au ciel, dans une circulation incessante. Donc en fait voilà, c'est que après coup finalement qu'il a qui ça c'est drôle parce que quand on écrit en fait souvent on étale quelque chose qui sort de nous et qui nous dépasse en fait. Ce qui est intéressant c'est de voir que c'est à 80 ans qu'il se réinterroge sur cette première vraie poésie, on va dire texte en prose poétique qu'il a écrite sur pourquoi et qui va trouver en fait toutes ses réponses. Et il dira, parce qu'il a beaucoup voyagé sur l'eau notamment, et il dira que ça lui a permis vraiment d'embrasser définitivement la voie du Tao, parce que ça vraiment c'est rentré dans son imaginaire. Voilà, les voyages sur les cours d'eau majestueux, chargés de passé et toujours en devenir. Et donc voilà, il a vraiment trouvé cette. On va dire cette révélation-là. Et donc, évidemment, bah, il comprend maintenant que l'eau, c'était déjà la métaphore de l'âme humaine avec toutes ces métamorphoses voilà, qui va dissimuler des profondeurs insondables, qui devient cette image d'un espèce de fluide entre les mondes, qui va vraiment incarner le passage, le mouvement insaisissable, tout comme le temps, l'esprit, le souffle. Et aussi, qu'elle nous apprend à traverser les choses sans effort, sans résistance, comme un des principes du Tao aussi, qui valorise une action fluide et sans effort. Voilà, enfin, il parle de l'eau, je vais pas tout raconter, parce qu'il dit aussi que c'est voilà, un élément très purificateur qui va laver nos plaies, etc. Enfin, bon. Voilà, donc... Donc à 15 ans, il raconte un moment d'illumination décisif qui va marquer toute sa vie. Ouais, c'est ça. Donc, ah oui, parce que je crois que là, je vais vous le faire passer, c'est le texte. Parce que je trouve que pour les citations un peu longues, comme ça, c'est bien d'avoir le texte sous les yeux. Enfin, je pense que vous en pensez. Mais... Ouais. C'est extraordinaire et moi j'aime beaucoup parce qu'il parle de chant, il parle de chant tout au long du livre en fait. Pour lui la poésie c'est le chant, tout va chanter, tout va résonner, tout va teinter. Ça va? Donc il dit, C'est dans ce contexte d'abandon confiant et de frayeur tragique qu'un moment d'illumination me survient, me terrassant une fois pour toutes. Un matin de septembre, comme tous les matins de la semaine, j'escalade tôt la colline pour me rendre au lycée. Près du sommet, je traverse un bois de pins et de mélèzes. Habituellement, on y est accueilli par une pénombre imprégnée de senteurs d'écorce et de résine. Ce jour-là, une autre scène se présente à moi. Dans la nuit, un orage a eu lieu et, à cette heure de l'aube, tout semble délavé, purifié, prêt à inaugurer une nouvelle ère. Un rayon de soleil levant éclaire en oblique les troncs des arbres, enlevant d'un geste sûr la brume qui voile les branches des cimes. Au bout des aiguilles, des pins sont suspendus, persistantes, scintillantes, des gouttes d'eau, myriades de perles aux teintes irisées qui viennent auréoler d'enchantement cet instant unique. Aucun mouvement n'anime l'espace encore, sinon quelques papillons émergeant d'un sol mouillé qui exhale un parfum de violette, sinon le brusque coup d'aile d'un oiseau qui s'envole en direction de la chute dont les échos résonnent jusqu'à moi. Je suis là, seule, entre terre et ciel, tout en pressentant que je ne le suis pas, tant ce coin caché est empli d'attente. Tout à coup, en effet, une présence est devant moi, invisible mais évidente, intimidante mais toute d'intimité. Pour lui faire face, mon être se dresse, entier, sans réserve, pour s'entendre dire « Toi qui as soif, sois chant. Chante et tu seras sauvé, et tout sera sauvé. » Ébranlé, terrassé par ce que j'entends, j'attends encore, plus rien. La présence s'efface, me laissant pantois. Mais le message est passé. Je vais juste lire encore un tout petit peu. J'ai saisi en cet instant que ce que la nature nous fournit est un don inestimable. Encore faut-il que ce don puisse en nous se métamorphoser pour qu'un mystère se révèle et que tout prenne sens. Autrement, nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, taraudés par tant de désirs. La nature possède le pouvoir de métamorphose, l'eau est son moteur et son modèle. Nous, les humains, possédons aussi un pouvoir de métamorphose, notre verbe. C'est quand même magnifique. Voilà. Et ce chant, évidemment, le thème du chant, le mot chant, va parcourir, va irriguer le livre, que ce soit son propre chant ou quand, dès qu'il parle du poème de quelqu'un, il va parler de son chant, du chant des auteurs. C'est très très beau. Voilà, je vous ai lu ce passage jusqu'à cette notion de verbe parce que moi je trouve que dans le travail qu'on fait ici à l'Ethnocafé, on parle de poésie, on parle de soins poétiques et la poésie versifiée ou en prose, enfin littéraire, nous sert d'appui et j'aime beaucoup parfois revenir à cette notion de verbe pur et de comment les mots, et ça va être un peu toute l'interrogation en fait aussi de François Cheng dans ce livre, c'est comment les mots qui peuvent paraître abstraits, vides, insignifiants vont vraiment nous révéler quelque chose de l'ordre de l'être, de l'ordre de la beauté, de l'ordre de quelque chose presque d'un peu impérissable. Et j'aime beaucoup voilà, ce rapport subtil qui va tisser avec le verbe, la langue dont il parle beaucoup. Voilà. Enfin, ça va pour tout le monde ?
Ouais.
Si vous avez des questions ou quoi, enfin, vous n'hésitez pas. Voilà. Donc ensuite, pas de chance, parce qu'après l'occupation japonaise, il y a une guerre civile qui éclate entre nationalistes et communistes. Donc lui, là, c'est une période de chaos pour lui, puisque moi, il va à l'université, mais par intermittence, sans aucune assiduité. Et il est en proie à de très fortes angoisses existentielles. Donc il est pris quoi, dans ses propres mouvements. Et du coup, il se retrouve finalement sans emploi, un peu à abandonner ses études, et il se demande comment il va survivre. Et il dit qu'il n'aperçoit qu'une seule lueur, finalement, à l'horizon. Il dit « j'ai mon chant ». Voilà, c'est la seule chose qui va vraiment le maintenir sur ce fil presque de l'existence. Et après, bon, il va fuguer, il va faire une très longue fugue où il va finir un petit peu errant et miséreux dans les rues de Hong Kong. Il va revenir amaigri. Bon, ses parents, enfin, il a beaucoup de respect pour ses parents et il est, j'aime beaucoup comment il en parle de ce qu'il aura fait, entre guillemets, subir. Voilà, et donc en 1948, enfin, il va quitter la Chine par avion parce que son père avait, devait participer à une conférence internationale. Et en fait, il va décider de l'emmener avec lui. Et je pense qu'il a dû sentir que ce fils, un petit peu en perdition, voilà, allait peut-être retrouver un élan à cet endroit-là. Et donc, il atterrit à Londres, puis à Paris. Et là, il ne connaissait pas un mot de français. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il ne savait pas dire bonjour. Il ne savait pas dire merci. Il était complètement... démunis au niveau du langage. Et il va faire un choix étonnant, c'est-à-dire le choix de rester en fait à Paris, peut-être par une forme de rencontre un petit peu amoureuse avec la France. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il avait 19, je crois. C'était en 48, donc il est né en
20.
Il avait 19 ans. Il avait 19 ans. Et ses parents, eux, pour le coup, ils ont décidé de migrer aux États-Unis. Tenter leur chance là-bas. Donc en fait, ils parlent de ça, de vraiment de leur choix, enfin à quel point il leur est reconnaissant d'avoir respecté son choix, de rester seul, parce que c'était un pari. Enfin, il faut se remettre à l'époque. On est en 1948, on est des années d'après-guerre, il ne parle pas un mot de français, il a part d'argent. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou en fait quand on y pense. Et ses parents acceptent son choix, ils doivent sentir que quelque chose l'appelle de plus fort. Donc il va rester seul en France et là il va prendre des leçons de langue à l'Alliance française, il va prendre des cours de civilisation à la Sorbonne, il va enchaîner toutes sortes de petits boulots, il va être manutentionnaire dans des restaurants, interprète, professeur de chinois privé, et il parle de cette période quand même comme d'une période d'errance et un peu de dénuement où il doit tout réapprendre, il doit repartir à zéro complètement. Il y a une espèce de choc quoi, qui se produit, et surtout ce qu'il va comprendre, c'est que il va comprendre que la persécution des poètes dans son pays ne va jamais qui ne produit plus que de la propagande en gros, ne va pas du tout lui permettre de se développer intellectuellement ou artistiquement là-bas. Donc en fait il renonce un petit peu à ce moment-là à écrire dans sa langue natale, parce que pour lui c'est sans perspective s'il a ce dessein de devenir poète et de chanter. Voilà. Et donc il comprend aussi que pour lui tout va être une histoire de rencontre, absolument tout, parce qu'il n'a aucun diplôme et il dit à cause de mon passé calamiteux, je ne pourrai jamais me faire valoir par un quelconque papier d'identité. Seules des rencontres d'être à être me permettraient de me frayer un chemin dans l'existence. Donc, il a déjà cette intuition, il a déjà son chant, enfin l'idée d'un chant, et il a rien d'autre, c'est-à-dire pas de diplôme, il a cette intuition qu'en fait, voilà, par la rencontre, quelque chose va se produire. Et les rencontres pour lui sont d'abord littéraires. Parce qu'il va vraiment trouver en Rimbaud d'abord, enfin je crois que c'est le premier qui cite. Une sorte d'alliance de communion totale. Enfin, il y a un passage magnifique sur Rimbaud. J'ai pas assez de temps pour vous résumer, mais voilà, il va notamment partager avec Rimbaud cette espèce de communion quasi mystique avec la nature notamment, et qui va vraiment jouer un rôle crucial dans son propre cheminement vers une harmonie intérieure et vers cette spiritualité qu'il va développer, qui est une spiritualité au-delà des croyances religieuses. Et voilà, il partage un petit peu ça avec. Enfin, il sent qu'il partage vraiment ça avec Rimbaud, puisque suivant la voie du Tao, la recherche d'une sorte d'unité fondamentale, et notamment avec la nature, avec le tout, c'est vraiment ce sentiment de que le tout est relié au. Enfin, que le binyme et le tout, c'est ce qu'il va dire, et sont pleinement reliés. Voilà, c'est très très présent. Puisque le cosmos est incarné en la vie, puisque chaque être qui participe à la vie est unique, le royaume est le lieu où le minime et le tout ne font qu'un. Et là il sort un petit vers de poésie, il dit: un iris est tout le créé justifié, un regard est justifié toute la vie. Donc, les rencontres... ça va pour tout le monde ?
Oui.
Donc, les rencontres littéraires, il dit quelque chose de très beau. En fait, voilà, ça permet vraiment pour lui de sentir qu'il a des frères et des sœurs un peu partout. Pour moi, ça rejoint un petit peu cette pensée d'Armel Guern dont on parlait au tout début de l'ethnocafé. Finalement, la littérature, c'était ça. C'était de pouvoir s'approcher de son propre ravin. Parce que là où on n'osait pas aller seul, en fait, il faut qu'il y ait un frère, une sœur qui a fait un petit pas de plus que nous, qui va nous conduire. Donc moi, ça m'a vraiment envoyé à ça. Et donc, il dit, voilà, ce partage de préoccupations existentielles par un autre être que nous, qui sont parfois mieux formulées par lui aussi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de traduction... parfois beaucoup plus, j'allais dire, efficace pour rejoindre le noyau de ce qu'on ressent. Et donc, on va rencontrer à travers la médiation d'un texte, finalement, une vraie part de notre propre humanité. Et c'est comme si ça faisait une espèce d'écho empathique très profond. Et c'est cet écho empathique-là qui va soigner et réparer l'être, qui va vraiment trouver... presque une alliance sacrée en fait au cœur de lui-même. Voilà, ça va pour tout le monde. Et donc il dit aux heures de solitude, j'ouvre le recueil de l'un d'entre eux et ma solitude rencontre celle d'un autre, d'un frère, d'une sœur en poésie. C'est alors qu'une vraie communion a une chance de s'opérer. Elle n'est pas dans un accord immédiat, elle passe par une transcendance. Et les rencontres, pour lui, donc ça... En fait, bon, j'ai évidemment, enfin, il y a tellement d'éléments autobiographiques que j'ai pas pu tout vous dire, j'ai pas le temps, mais c'est extraordinaire, cet homme qui a traversé le siècle, qui a rencontré un nombre d'écrivains, de poètes, de peintres, de critiques littéraires, même Lacan, enfin voilà, donc... Ces rencontres, en fait, ça va être beaucoup des rencontres humaines, des rencontres avec les grands écrivains du siècle, en fait, qu'il évoque toujours. Moi, j'adore parce qu'il y a une forme d'humilité quand il a parlé d'élégance orientale, très, très respectueuse, quelque chose du respect d'une forme d'admiration, en fait, mais d'admiration, d'une belle admiration, quoi.
Elle est proactive, en fait.
L'admiration, ouais, puis c'est comment dire, l'admiration ne va pas forcément dire chez une notion de pure hiérarchie, c'est-à-dire que lui-même est complètement existant dans la relation, l'échange se fait, mais il y a tellement de respect et de respect pour l'œuvre aussi, pour les écrits, pour ce que les gens ont véhiculé en fait dans le monde. Moi, je trouve ça très très agréable en fait ce regard que je moi j'y reconnais quelque chose d'un peu oriental dedans, vraiment dans le une manière, je trouve, hein. C'est mon ressenti, mais
heureusement donc... qu'on peut admirer. Je trouve ça terrible de ne pas avoir d'admiration pour quelque chose. Ça me paraît,
voilà.
Ça m'empêchait de vivre.
Un débat, mais bon, mais en tout cas, voilà. Et il donc il parle notamment de sa visite à André Gide, qui a été l'une des premières, alors qu'il était assez âgé, qui lui a laissé vraiment un sentiment d'irréalité. Alors pour lui, c'était vraiment je vais voir le maître, c'est-à-dire l'homme qui a écrit les nourritures terrestres. Et voilà, je vais rencontrer cet homme-là. C'était assez incroyable parce qu'il a lui, il n'était pas du tout connu à l'époque. Voilà, il a aussi eu, bon, pour vous citer Tristan Tzara, Vercors, Yves Bonnefoy. En fait, il y a des gens qu'on retrouve ici d'une rencontre, enfin, dont on a beaucoup parlé à l'ethnocafé. Il y a Michaud, Berger, voilà, il y a même Julia Kristeva, Lacan, André Werther. Enfin, bon, voilà. Et j'en passe, hein, vraiment, ça a été. Tout a été tissé de rencontres. Et sur les rencontres, il dit cette chose que je trouve très belle. Il dit l'espace-temps transfiguré par les présences accordées. N'est-ce pas la définition même de la beauté ? De ces expériences vécues est né un quatrain qui ne me quitte plus. La beauté est une rencontre. Toute présence sera par une autre révélée. d'un même élan, regard aimant, figure aimée, d'un seul tenant, vent d'appel, feuille de résonance. Alors, pour parler plus précisément du... Donc oui, c'est ça. Je vous fais passer cette petite fiche. Alors, attends, parce que je crois qu'il y a 182 et... Et il y a les deux, non ? 182, 183 et 186 aussi.
Ouais, t'as 182
et 183. Ouais, et ça aussi, les deux.
Entre 92, 93 et 86.
83.
82,
83, 86.
Ouais.
C'est ça ?
Super.
Ouais.
Et vous travaillez
ici,
hein ? Ouais, donc, tu as regretté, hein,
Ah
oui, on saute des pages, on passe
la dernière phrase du
28 à 182.
D'un seul tenant, vent d'appel, feuille de résonance. D'un seul tenant, vent d'appel, feuille de résonance. Donc, je vous ai livré ce passage parce que... on va revenir plus tard, juste. Donc pour vous dire que l'apprentissage du français a été très long pour François Cheng, parce qu'il est très exigeant, il souhaite maîtriser parfaitement cette langue avant de pouvoir l'employer, écrire dedans. Donc il commence seulement à écrire en français en 1977. Ouais, donc, mais oui, parce que ça a été vraiment son temps. En fait, il a vraiment ce désir de pouvoir écrire en français parfait, voilà, ouais. C'est ça. Donc il a mis combien de temps? Il a mis 20. Il est arrivé en 40.
Ouais.
Ça m'étonne, parce que j'ai plutôt entendu que s'il avait mis 20 ans. Est-ce que mes dates sont... Bon, en tout cas, il a mis longtemps. Voilà. Et lui, il s'oppose, enfin sa vision de la littérature, il le résume à un moment comme ça, il s'oppose aussi bien à une littérature engagée qu'à une littérature qui prétend ne rien signifier. Donc dans son écriture, il privilégie toujours le quatrain, donc, qui constitue pour lui le minimum complet. Et c'est aussi une forme universelle que la poésie chinoise classique a honorée, qu'il a appelée Juju, alors la prononciation, voilà, vert tranché. Et donc en fait, il a donc cette dualité linguistique qui est évidemment très très intéressante dans son parcours, et qui lui permet de voir que chacune des langues a sa manière propre vraiment de poétiser l'existence et de traduire toutes les subtilités de l'être humain. Donc les idéogrammes, eux, ils vont vraiment évoquer une figure concrète. Ça va être une langue de la contemplation et de l'introspection pour lui, parce que la calligraphie, les caractères ont vraiment cette capacité de saisir l'essence des choses grâce au lien direct et visuel entre le mot et l'image, entre l'émotion et le signe. Et le français, pour lui, c'est plus une langue de la culture, de transmission, d'ouverture. En français, il dit que les mots, évidemment, ne sont pas forcément marqués, enfin, au niveau graphique, mais plus évocateurs par leur prononciation. Et ils vont vraiment représenter nos états d'être par les sonorités particulières qu'ils produisent en nous, les combinaisons singulières, le rythme, enfin, toute la chimie vibratoire et sonore qui va venir exciter notre imaginaire. Et c'est là où je vous invite donc à regarder page 182, là. Donc chaque mot y est représenté par un idéogramme, ça c'est en chinois, non ? Qui, outre le son et le sens dont il est chargé, évoque une figure concrète ou plus abstraitement une certaine manière d'être. Ainsi, par exemple, ce signe, voilà, égale être humain. Vous voyez ? Ça égale arbre. L'autre, là, c'est deux arbres côte à côte, égale forêt. Vous voyez ? Donc quelque chose de très, très visuel, très concret, très direct. Alors ça, l'homme près d'un arbre égale repos. Vous voyez ? Enfin, c'est tout un imaginaire à l'œuvre, dans le symbole même, en fait, qui va signifier quelque chose de très fort. Ce symbole-là veut dire deux hommes en compagnie égale vertu d'humanité. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de signifiant, de poétique dans le signe même, en fait. Donc, il dit... voilà. En poésie, cette écriture contribue à augmenter la puissance d'une présence, en reliant subtilement les choses entre elles. Dans l'écriture alphabétique d'une langue comme le français, l'aspect figuratif manque, mais les valeurs phoniques sont infiniment plus riches, évocatrices de sens à leur manière. Je prends beaucoup de mots comme des idéogrammes, non par leur graphie, mais par leur prononciation même, qui suscite l'image de la chose désignée. Les mots élémentaires comme « arbre » et « source » m'ont inspiré spontanément des poèmes imagés. Ainsi, pour moi, dans « arbre », le début « ar » évoque une chose qui s'élance vers le haut. Ça, c'est pour toi, Manu. Vraiment. Et qui s'élance vers le haut. « B », un équilibre ténu au sommet d'un fût. Et « bre », cette même chose qui répand son ombre. Entre ardeur et pénombre, le fût, par où monte la saveur de la sève, de l'originel désir, jusqu'à la futée, jusqu'au frondaison, foisonnante profondeur, portant feuilles, fleurs et fruits, de la suprême flamboyance. Quant à la source, elle est bien cette substance qui épouse les accidents du sol, l'entourant intimement comme un ourlet. Source sourde à toutes nos souillures, elle sourd du sol pour se muer en fleuve, en vapeur et puis en pluie, ourlant la terre d'un arc-en-ciel. Plus loin, il va dire, page 85-86, un jour, alors que depuis des mois je suis raide, le dos rompu de douleur, prostré dans une sensation de dislocation, pour échapper à l'asphyxie, je cherche des mots pour nommer mon état. Et je ressens les mots écrabouillés, claquemurés, arc-boutés, comme s'ils avaient été créés pour moi. Arc-bouté, sur ses brèches, tout son être se fait flèche. Ainsi, des mots presque homonymes, mais à la signification contrastée, me fascinent. Violette, violentée. Rouge-gorge, égorgée. Nuit serait sans nuisance. Si rêve ne révulsait. Ou consent à la brisure, c'est là que germera ton trop-plein de crève-cœur que passera un jour hors de l'attente la brise. Voilà, je continue juste un tout petit peu, si ça vous va. Un beau matin, le mot nuage, incarnant phoniquement une matière impalpable qui s'amasse un moment dans le visible et se dilue dans l'invisible, me permet d'une traite de transposer en français le poème de Bo Juyi, pardon pour la prononciation, chérie de tous les Chinois. Fleur, est-ce une fleur ? Brume, est-ce la brume ? Arrivée à minuit, s'en allant avant l'aube, elle est là, rêve d'un printemps éphémère. Elle est partie, nuage du matin, nulle trace. Donc là, il explique aussi que se détache un mot qui est le mot sens, réduit à une syllabe monosyllabique, caractère familier à une oreille chinoise, du coup, d'une extraordinaire densité, se révèle le plus riche de contenu, porteur qu'il est de trois acceptions, à savoir sensation, direction, signification. Par sa brève prononciation, il fait entendre un brusque surgissement, un prompt avancement. Par ces trois acceptions combinées en un tout organique, il incarne les trois étapes ou les trois étages de notre existence terrestre, une existence faite de quêtes en un mouvement ascendant. La sensation nous éveille dans un univers vivant et inconnu. Attirés par ce qu'il y a de naturellement bon et beau, nous avançons vers une direction. Du coup, Nous ne sommes plus des êtres qui tournent en rond aveuglément. Nous nous engageons dans un processus de faire et de créer qui donne sens à notre vie. L'accès de la signification veut dire ici que nous faisons signe à l'être en tant que sujet. Nous devenons actifs participants à l'aventure de la vie. Voilà. Ça va pour tout le monde ?
Ouais.
Donc voilà, ce que vous en pensez, c'est étonnant. Enfin, c'est... C'est fou. C'est, puis c'est en fait revenir... déjà, comment les différentes langues vont structurer notre imaginaire, en fait, et notre manière de voir, de concevoir le monde, de le poétiser, notre rapport au monde même, et c'est ce que je pense qu'il essaie de dire, et peut-être conditionné, en tout cas, mu par une langue, par des vibrations particulières, par des mots qui vont tout à coup se révéler comme porteurs d'un sens extraordinaire. Ou d'images extraordinaires. Enfin, il y a quelque chose qui vient en fait nous saisir. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu. Enfin, je trouve ça intéressant d'en revenir au verbe et vraiment de se poser la question de presque du lieu du verbe en nous en fait et de ce qui vient provoquer en nous. Voilà. Ça, c'est personnel. Mais je...
Non, moi, ce qui me touche, c'est le... Il se passionne pour la différence de nos deux cultures et il essaye, à partir d'une culture, de faire une transposition et comme s'il voulait prendre une nouvelle photo et de passer dans un nouveau révélateur avec la sensibilité de l'autre culture et de révéler de nouvelles choses.
En fait. C'est ça. Et c'est exactement ça. Et en fait, il se dira plus tard qu'il est devenu à la fin un être indéfinissable à la crête d'une symbiose entre les deux, justement, et qu'il n'est pas, enfin, qu'il peut pas choisir ni l'un ni l'autre, mais qu'il va vraiment toujours dans une logique de dépasser la dualité, justement, de dépasser quelque chose qui va s'opposer. Mais de vraiment de prendre l'essence, le meilleur en fait, à la fois de chacune des cultures, de chacune des langues, et puis il va traduire, enfin on va beaucoup le solliciter pour des traductions, pour des travaux en français, mais sur des textes chinois, pour opérer vraiment ce passage d'une culture à l'autre. Et c'est vrai qu'avec Jean, on s'était aussi interrogé parfois sur le comment dire, d'aller puiser ailleurs. Des éléments d'une culture qui est un peu exotique, mais qu'on ne comprend pas, qui ne font pas forcément sens pour nous. Et moi, je trouve que lui, c'est vraiment symboliquement, c'est vraiment quelqu'un qui a justement réussi à former un passage extraordinaire. Enfin, parce que ce qu'il appelle la voie du Tao, enfin, il est vraiment très, très imprégné de ça, de tout ce courant-là. Et il est complètement épris, parce que pour moi, c'est de l'ordre d'un amour qu'il a vraiment pour cette langue française et pour la culture française et pour cette voix orphique dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Mais il a réussi, je trouve, à cimenter tout ça et à ne rien réduire jamais, à ne rien simplifier, à tout dépasser. Enfin,
je ressens deux autres choses. Je ressens que peut-être il a vécu la même chose, la même vibration dans la relation entre deux êtres, de la même manière qu'entre deux cultures il se passe quelque chose, on a le sentiment qu'il vit il est attentif à ce qui se passe entre deux êtres aussi.
Oui.
Et du coup, pour nous, ça nous intéresse aussi de savoir comment un soignant et un soigné vibrent aussi dans cette même dynamique.
Tout à fait,
d'une puissance incroyable.
Ah ouais, c'est juste incroyable. Ouais, je te rejoins complètement là-dedans.
Je dirais de manière un peu plus prosaïque ou moins poétique que le fait de découvrir une langue qui était complètement étrangère, en l'occurrence le français, lui. Tu l'entends pas comme toi, dont c'est la langue maternelle et dont on a murmuré toutes les syllabes à l'oreille depuis l'enfance, en fait. Et donc, il se pourrait que, en fait, cette résonance particulière, je pense à la décomposition du mot arbre ou du mot nuage, en fait, il est d'abord dans une forme de sensation. C'est d'abord sensoriel, à la fois la sensorialité sur le le ressenti en contemplant un arbre, par exemple, et en même temps le lien avec le mot qui va rendre compte de ce que c'est que cet arbre.
Exactement.
Et que lui, c'est pas seulement cette création, cette créature, mais c'est comment il fait vibrer la langue avec ce...
Exactement.
Parce que ce n'est pas sa langue maternelle, même s'il la pratique jusqu'à l'excellence, et qu'il l'a polie et qu'il l'a sculptée de manière très lisse, mais il n'empêche que je ne peux pas m'empêcher d'entendre que cette langue française, pour lui, c'est d'abord une musique étrangère, quand même, étrangère.
Oui.
Et que quand on ne comprend pas quelque chose, les enfants font beaucoup ça quand ils apprennent l'anglais ou l'espagnol, je ne sais quoi. Ils rattachent à des mots des faux amis, ils rattachent à des mots que eux connaissent, ne serait-ce que parce que c'est un procédé mnémotechnique, enfin, quelquefois, de se rappeler d'un mot qui n'a rien à voir. Et moi, je sens cette espèce de résonance de la langue qui n'est pas la tienne, même s'il la maîtrise à la perfection, et elle garde on est dans la sensation, en fait.
Une approche.
Puis comment, en fait, aussi
complètement différente que serait la nôtre, dont c'est la langue maternelle, et que d'autres langues étrangères peuvent peut-être nous inspirer aussi, enfin, peut-être avec moins de force et moins de talent, mais...
Ouais, c'est ça.
Moi, je dirais qu'il est quand même passé à 19 ans par cet épisode du moine errant et mendiant.
C'est-à-dire
rien à voir.
Ah, oui, tout à fait.
Et tout attend d'une rencontre, d'une structure. Ça, c'est important, il me semble, pour ensuite. Ouais. Il est passé par ces airs.
Il est passé, il a vraiment.
Tout attend.
Voilà.
Tout.
Ouais.
Ce qu'on veut bien m'offrir, parce que je veux bien.
Ouais, il a vraiment fait un espèce de passage à vide où.
On dirait pas vide, comment dire. C'est l'autre qui s'attend de l'autre.
Et puis son corps, c'est emprunt aussi de cette métamorphose, quoi, de ce chemin et de cette errance. La langue a accompagné le corps et issu du corps aussi. C'est hyper intéressant.
Pour moi, Cheng, c'est l'homme de l'être par excellence. De l'être dans les deux sens, j'adopte. Et je trouve qu'il nous ouvre une voie justement sur quel mot on pose. C'est l'homme de l'être. Mais moi, vraiment, il m'a. Et puis, c'est ça, de ce que vous dites, il nous fait redécouvrir notre alphabet, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et... il nous fait découvrir comment lui, il a découvert plutôt.
Oui, mais du coup, il nous réouvre des possibles.
Que ce soit un non-occidental qui parle de voilà, et d'autant plus le français qui est du coup notre langue, pour moi c'est hyper j'ai rarement lu des choses de par exemple en anthropologie, des anthropologues qui vont travailler sur la France ou sur la langue, sur la langue style, c'est impressionnant.
Mais toujours voilà, toujours dans une visée très poétique de compréhension intuitive des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été sollicité à un moment, pour travailler sur un texte rapport avec le structuralisme, qui est une discipline assez, sèche, d'études un peu mécaniques du langage. Et il sentait une réticence, parce que vraiment pour lui, voilà, c'est... il y a autre chose quoi, à atteindre à travers la langue et un autre rapport à créer qu'un... quelque chose de mécanique, parce que c'est, pour lui la langue c'est pas seulement des mots, c'est quelque chose qui va mettre tout notre corps en mouvement, qui va pouvoir provoquer guérison, mais même pour lui c'est vraiment plus haut que ça, c'est même il parle vraiment de transcendance, de transfiguration, c'est vraiment le mot qui va utiliser. Donc voilà, l'étude purement mécanique de la langue ça lui allait pas.
Beaucoup de révélations aussi dans le cette méditation de la beauté.
Mais il fallait quand même qu'au départ, qu'il ait des expériences extrêmement riches. Parce que la langue, elle est toujours en deçà de ce que de l'expérience. Elle ne peut jamais exprimer mon expérience.
Ouais. Mais moi, ce qui m'a étonnée... Pardon, excuse-moi, je te coupe.
Non, mais si, enfin, la langue, elle est toujours en deçà de l'expérience.
Surtout quand on ne maîtrise pas.
Il n'y a pas cette méfiance envers les mots.
Il cherche, il enquête. Oui, et je pense qu'à certains endroits, justement, je pense qu'il cherche l'endroit où le langage va rejoindre l'expérience et l'expérience la plus profonde. Moi, c'est ça que j'ai senti chez lui, justement. Et c'est vrai que j'ai été étonnée aussi de voir que les expériences, enfin, parmi les expériences les plus poétiques qu'il décrit dans son livre, ça a été dans l'enfance. Enfin, ça m'a marqué parce qu'après il décrit plein d'autres choses, mais on est dans, là le passage que je vous ai lu, par exemple, il y a quelque chose de, je pense, qui rejoint complètement ce qu'il a senti dans le silence et la contemplation qui allait produire en lui d'abord l'émotion poétique, en fait, qui après allait prendre une forme ou une autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là presque à l'origine dans son regard, dans son enfance, en fait, qui s'est créé. Et ouais, ça,
Moi, je me demande si c'est parce que justement il y a quelque chose d'impossible à dire, d'impossible à saisir, qu'on est pris par l'écriture. Et qu'on essaye toujours de s'en approcher, et que c'est insaisissable. Quoi. Et c'est ça qui met le. Un petit peu comme Marguerite Duras, qui a, je crois que c'est elle, oui, pour proposer une photographie qui manquait. Et qui s'est...
Ça lui a donné. Oui, bah elle, c'est la femme du mot trou. Hein,
C'est
La femme du mot trou. Elle parlait de mot trou, c'est que pour elle, le langage était troué, quoi. Il manquait vraiment quelque chose pour nous permettre d'atteindre un disciple, quoi. Mais ouais.
Parce qu'en fait, si on prend la langue du côté auditif, c'est-à-dire que c'est une oralité, comme si c'est une musique, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est la langue écrite. C'est-à-dire que c'est une création. C'est pas exactement la même chose. Et je sais pas quoi en tirer comme conclusion, mais je trouve qu'il y a une.
La langue écrite ou parlée ?
Oui, mais justement, je pense qu'il y a une différence, parce que là, il écrit. Il écrit, il nous parle pas, il écrit.
Oui, mais...
Ça peut être que ça nous parle, mais en tout cas, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une musique de l'écriture, à mon avis, qui est différente que la musique, par exemple, d'une langue étrangère qu'on ne comprend pas. Et qui peut être aussi poétique, parce que on trouve, c'est très étonnant, il y a des langues qu'on ne connaît pas, qu'on trouve abruptes, qu'on trouve désagréables, puis il y en a d'autres qu'on trouve agréables. Donc c'est vraiment une musique, quoi. On apprécie ou on n'apprécie pas. Là, je trouve qu'il y a une sorte de reconstruction, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est... C'est le geste artistique, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il en fait quelque chose, quoi. L'arbre, c'est lui qui le dit, c'est une interprétation. Elle est très belle, hein, moi, elle me plaît beaucoup, mais bon, une autre subjectivité aurait pu dire autre chose, écrire autre chose, en fait.
Tu veux dire autre chose ?
Non, mais j'ai le temps. C'est plus tard.
De toute façon, je pense que ça va
soulever. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas fini, alors.
Oui, c'est ça. J'ai peur, je sais que je vais forcément déborder un peu. Voilà, donc je vais essayer de... Voilà, donc voilà, ce qu'il cherche à atteindre, justement, c'est un champ. Un champ qui demeure en nous, au-delà des effondrements intérieurs ou extérieurs, où le poème va vraiment devenir un souffle unificateur. Qui va apaiser justement le sentiment d'une certaine fragmentation intérieure. Et il va se faire acte de présence, le poème même, les mots même, le langage même, et agir comme un médicament spirituel. Il dit un verbe qui, relié au verbe originel, rompt le silence sidéral dans lequel se déroule notre destin. Donc un verbe qui se trouve comme uni à un ordre cosmique plus vaste, évidemment, qu'il embrasse la voie du Tao, à cette force universelle qui va traverser toute chose et qui est à l'origine de l'ordre naturel de l'univers. Je lis juste ça parce qu'il a allié justement, il prend beaucoup d'éléments, évidemment, il va allier la roche, l'arbre, etc., qui sont des éléments, il est très présent dans la poésie. Chinoise, et il va les allier dans ce poème. Il dit rocher propulsant arbre, arbre aspirant rocher, cercle établi renouant l'alliance terre et ciel, cercle ouvert renouvelant le mystère à trois faces dans l'ombre ici offerte, l'homme de longue errance à soi enfin royaume. Bon, voilà. Continue, si je suis trop longue, franchement, si je vous ennuie un moment, si je suis trop longue, dites-le moi, parce que... Voilà, non, vraiment, c'est ça.
T'imagines.
Non, non, mais je vais essayer de. Je vais essayer de.
Tu restes déçu si on t'arrête pas. Hein.
Ah, bah là, je sais que c'est que par amitié que vous restez, donc voilà. Mais bon, bah, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ouais. Ah, bah ça.
Il n'est même pas français.
Donc. Donc, en gros, à partir du moment où il arrive à Paris, c'est fou, l'espèce de, j'allais dire, de décollage mystique, je dirais plutôt une exaltation presque mystique. Donc, lecture très très intensive, donc il dévore des œuvres, enfin, voilà, je crois qu'il s'est fait l'essentiel vraiment de la littérature française et des philosophes après, etc. Et donc, il évoque l'œuvre de Rilke, qui a été une œuvre marquante et voire fondamentale pour lui. Ça a été une rencontre exceptionnelle. Et il évoque ce passage que j'aime bien. Alors c'est pour ça que je voulais un peu sélectionner, parce que c'est la rencontre entre Rilke et le maître Rodin.
Tu connais pas Rilke ?
Hein ? Rilke ?
Non, mais c'est pas très français.
Ah, non, oui, mais bon, il a enfin, non, tout ce qui est oui, occidental. Et, peu, oui, il a lu, il a, évidemment, il cite aussi Hölderlin à un moment, enfin plein de. Oui, c'est l'Occident surtout, ouais. Voilà, mais le français évidemment. Voilà.
Rilke, c'est culturellement, c'est
encore. Ouais. Et donc, Rilke semble dire justement que de toutes les variétés de formes dans lesquelles l'artiste peut s'exprimer, comme la peinture, la sculpture, etc., finalement, le poète est le plus démuni. Parce qu'il ne dispose pas d'une matière concrète à partir de laquelle travailler, et il va devoir modeler ses visions de manière presque impalpable. Il a juste comme médium des signes qui peuvent paraître creux, insignifiants, et à cela, donc, Rodin lui propose une voie d'ascension spirituelle qui n'est pas désincarnée justement, mais qui passe par une fine exploration du réel. Je vais juste vous lire ce petit passage, sauf si vous en avez marre. Donc il dit, à son interrogation, comment vivre ? Le maître répond, en travaillant. Voilà, nous avons tous notre réponse. Ah mais moi c'est... mais en travaillant d'une certaine façon, donc en travaillant. Et le poète, de faire état de ses difficultés différentes de celles des autres artistes, lui qui n'a que des mots, cette substance abstraite entre toutes. Comment sortir les mots du réservoir où ils sont enfouis pour les amener à incarner les sentiments et les sensations souvent insaisissables qu'ils recèlent dans leurs entrailles ? Réponse du maître, il faut rester fidèle au réel. Il faut sortir de soi et observer avec précision les êtres et les choses, non tant leur aspect extérieur que leur part à première vue invisible, ces forces obscures qui les animent de l'intérieur. Pour ce qui est de la nature, allez donc au jardin des plantes, vous y trouverez tous les échantillons, les plantes comme les animaux. Et c'est là toute la question que pose ce livre, au fond, en fait, c'est comment faire pour que les mots ne soient plus simplement des signes abstraits, mais une véritable manière de traduire le réel dans sa forme la plus pure, de témoigner à la fois de l'invisible, mais de tout ce que nous sommes, et Cheng en parle beaucoup, c'est de comment ça va à un moment donné rendre justement à la fois la consistance et la dignité aux êtres, en fait. Donc pour lui, et notamment pour cela, je vais vous parler de la voix orphique, parce qu'il faut bien un moment où je vous plombe. Je plaisante.
Yes.
Donc la voix orphique, donc la voix du Tao, vous connaissez à peu près, hein. Enfin, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais bon, vous regarderez les grands principes du Tao, mais voilà, c'est une voix qui va chercher ce souffle primordial avec une reliance entre le tout, le voilà, entre le bouddhisme, de tout ça. Et lui, il allie complètement, et moi c'est ça que j'ai même envie de dire, qu'il m'a réconcilié même quelque part avec certains concepts du taoïsme. Lui, il allie donc la voix du Tao et la voix orphique, ce qu'il appelle la voix orphique. Donc c'est en référence à Orphée, vous connaissez un peu tous ce mythe. Donc ce poète qui est descendu dans les enfers pour retrouver voilà, celle qui aimait, enfin, sa propre âme quelque part, et qui pouvait aussi séduire par son chant, enfin qui avait réussi à obtenir au fond ce qu'il voulait parce qu'il a séduit par son chant, mais à la fin on lui a demandé de ne pas se retourner, enfin il a réussi à récupérer Eurydice, celle qu'il aimait, qu'il avait perdue, mais il a cédé juste avant de sortir des enfers, il s'est retourné et donc il a définitivement perdu, il n'a pas pu finalement lutter contre son propre destin. Et donc, c'est pas facile, je trouve. Vraiment, ça a été fou. Mais là, je suis encore en pleine surchauffe par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il nomme la voix orphique ? Parce que c'est très riche. Là, vraiment, à la fin, il y a des passages extraordinaires. Vraiment, je vous conseille de lire le livre. Parce que on pourrait dire, donc, de la manière dont je l'ai compris aussi, c'est, il s'agit d'une expérience poétique qui va chercher à faire donc, surgir un chant transcendant qui, est là, qui échappe au langage ordinaire. Qui va devenir un pont par lequel la vie aborde un au-delà, non de vaine consolation, mais de réelle transfiguration, ça c'est lui qui le dit. Et évidemment, ça va être un dialogue permanent pour lui entre, enfin je dis évidemment, c'est loin d'être évident, entre les morts et les vivants. Et ouais, et, enfin les vivants et les morts plutôt, je vais le dire dans ce sens-là.
Comme tu veux.
Mais c'est ça qui est très intéressant. Donc, il y a cette notion à la fois que pour lui, la poésie, c'est une sorte de chant sacré lié au pneuma, au souffle, à l'âme. C'est un grand défenseur du mot âme, en fait. Voilà, écoutez, il y a une interview, lui, très intéressante, où il défend vraiment le mot âme et il explique que toutes les religions, presque les civilisations, ont leur mot pour exprimer ça. Ce pneuma, le roui, le chi, le... Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'un souffle qui n'est pas de l'ordre de l'esprit. Et il fait cette distinction, même s'il vénère l'esprit, enfin, je dirais, il vénère l'esprit, évidemment, il dit qu'on en a plus que besoin et que c'est grandiose aussi, mais c'est pas du même ordre. Et ce qui est recherché dans le poème, dans la poésie, dans les mots, dans le verbe, dans l'inspiration, dans tout ça, c'est de l'ordre du pneuma. C'est de cet ordre-là, beaucoup plus que de l'esprit, pour lui. Donc, il y a ça, d'un côté. Il y a cette tentative, oui, comme de retrouver à travers ce pneuma l'harmonie, comme dans un moment de pureté initiale. Et la poésie va être cette quête, quoi, effectivement, comme dit Heinic, qui peut-être ne sera jamais assouvie, mais il y a une quête, en tout cas, qui va dans ce sens-là. Donc, évidemment, elle va nous inviter vraiment à une écoute patiente, attentive du monde. Alors, pour lui, elle est complètement liée à cette part féminine qui prédomine dans le taoïsme, c'est-à-dire le yin, qu'on connaît tous. Et il dit l'agir du yin, la part féminine, est dans la durée comme un souffle ininterrompu. Donc, la poésie, et c'est ça pour lui aussi la voix orphique, c'est qu'elle prend en charge aussi la profonde vérité de la mort. Et c'est ça qui va maintenir ce lien aussi constant entre les vivants et les morts. Et elle va faire jaillir pour lui, là je le cite, les irrépressibles étincelles de vie. Et donc elle va être à même de donner du sens à la destinée humaine. Est-ce que je vous parle de ça avec Henri Michaud ? Je ne sais pas. Pour lui, bon, le chant par exemple de Michaud était un chant incantatoire, hein. Vous savez que Michaud a aussi été dans la... enfin, il a eu une expérience dure avec sa femme qui était atteinte de tuberculose, etc. Enfin, il a été dans un vrai combat aussi avec sa femme à cet endroit-là. Donc il a eu une amitié très forte avec Henri Michaud, très forte. Et Michaud lui a dit que pour lui, la poésie était une sorte d'exorcisme, en fait. Qu'elle est de l'homme empêtré dans son mal-être et ses malheurs à se délester de ses démons, à saisir les vrais mystères de son être, afin de se délivrer de tout ce qui est superflu en vue de la suprême simplicité. Pneuma est aussi quelque chose de l'ordre de... Enfin, ça rejoint aussi un principe à ce niveau-là. Donc, désolée, je me rends compte, c'est un peu décousu ce que je vous dis, mais je vais un petit peu resserrer, puis après j'arrête de parler. Donc voilà, en fait, la mort, en fait, il en parle beaucoup, hein, il en parle, mais pas du tout comme quelque chose de morbide, en fait. Ça va être pour lui, justement, le révélateur de sens ultime, parce que ça va venir créer vraiment un processus dynamique qui va donner sens, évidemment, qui est pour lui le mécanisme, finalement, le plus vital de la vie. J'ai mis citation page 56, je ne sais pas si j'ai le temps, je vais regarder ce que c'est... ouais, c'était pour définir un petit peu le chant orphique. Bon, mais il parle de ça de toute façon. Il dit alors, oui, que justement, refuser de la dévisager, donc la mort, et ainsi restreindre notre vie à ce côté-ci, c'est s'amputer d'une partie agissante de notre être, c'est s'enfermer dans notre existence dans un état peureux, étriqué. Tendant au contraire vers l'ouvert, une notion qu'il a héritée de Hölderlin, Rilke, pardon, Rilke prône une vision de la vie en son entièreté, qu'il appelle le double royaume. Les animaux ignorent la séparation. Le cheval court vers le pur espace. Les anges évoluent librement d'un royaume à l'autre. Dans cette optique, tout vrai poète a pour vocation la voix orphique. Par son chant, il maintient vivace le lien de dialogue entre les vivants et les morts. C'est là la condition nécessaire pour que le destin humain retrouve sa dignité et sa liberté. Et là, après, il parle effectivement de aujourd'hui, comment on considère la mort, mais ça, ce sera plus une question pour la je sais pas, on voulait faire une soirée sur la mort, donc je sais plus si c'est d'actualité, mais ça c'est vraiment très très intéressant ce qu'il dit effectivement de comment on fait le deuil, qui est une manière de s'empresser d'oublier. Et lui, il dit que pour lui c'est exactement l'inverse en fait. C'est exactement l'inverse, parce qu'il dit si on oublie, si on, en fait on va vraiment tous se renvoyer à notre propre néant, et que la poésie est là aussi pour maintenir un héritage vivant, vivace, et redonner corps quelque part à la présence des disparus. Et il dit que lui, il est très imprégné donc de l'idée de métamorphose et de transmutation, et qu'il se reconnaît dans la voie orphique tracée par Rilke. Voilà, complètement. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous un petit peu ces explications de ce que peut être la voie orphique, parce qu'il en parle, il faudrait vraiment lire le livre. Je vais en parler encore un peu, mais voilà, c'est en gros, on peut le résumer comme ça. Ça va à peu près pour tout le monde ce que je te raconte, ou j'ai perdu
max, mais ça va.
Ça va.
C'est dense.
C'est dense. Ouais. C'est trop dense.
Non,
ça va.
Ok.
Donc à la fois pour lui, si je résume grossièrement, poésie, souffle pur, pneuma. Voilà, je vais résumer en un mot. Pneuma. Recherche du souffle pur, de l'âme, quoi, de voilà. Et la voix orphique, dans le sens que la poésie va prendre en charge toute la traversée humaine dans son entièreté, c'est-à-dire toute la douleur aussi, la détresse, la notion de la mort, et que son rôle, quelque part, ça va être de maintenir vivant le dialogue entre les vivants et les morts. Voilà, si je peux résumer ça d'une certaine façon.
Très bien.
Ça va ? Ouais. Est-ce que vous voulez que je continue ou ça va? Vous n'êtes pas grillé complètement? Non, ça va à peu près pour tout le monde. Je vérifie quand même parce que j'ai toujours peur de... Ça va.
C'est ouais. Trop bien.
Janine, ça va?
Ouais. Ça va.
Si Janine va, tout le monde va bien.
Ok, très bien. Ça va, Jean? Ça t'aime bien? Ça va?
Enfin, tu... Oui.
Okay.
C'est aussi à ça que servent les religions.
Et mais je pense que lui, je sais même pas en fait pour moi, je vais te dire mon sentiment, c'est que pour lui, enfin, ça me gêne de dire que oui, la poésie est une religion, mais pour lui, tout est, enfin, le religieux est de l'ordre du sacré, la poésie est de l'ordre du sacré, et au fond, ils vont se rejoindre dans la même transcendance. Donc je sens qu'il y a, parce que, comme on disait tout à l'heure, il est vrai qu'il. Il a tout exploré, le christianisme, le bouddhisme, le taoïsme évidemment, je pense tout, a... ouais, c'est ça. Et en fait, il a vraiment retenu le souffle universel finalement qui allait traverser et qui va traverser aussi, mais délesté de toute croyance en fait, mais évidemment la poésie. Et c'est là où c'est intéressant, et d'ailleurs pour lui, il dit un peu comme Saint-Gère, il parle aussi à un moment donné de l'amour, j'ai pas pu tout vous dire, mais c'est l'amour pour lui est ce qui va relier au divin, enfin bon, tout est lié pour lui dans ce souffle sacré à ce niveau-là. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, dans son recueil, donc, qui dira notre nuit, il va parler aussi de cette part nocturne de notre être. Et il dit donc, comportant des aspects terribles, elle constitue un constant défi à notre langage. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Un constant défi à notre langage. Pour lui, c'est le langage qui va être déstabilisé par ce vertige métaphysique incroyable. Pourtant, en dehors de nous-mêmes, qui serait en mesure de dire cette part inaliénable de notre être? Sommes-nous prêts à se laisser réduire en poussière? La longue expérience héroïque, tragique, décisive en tout cas, de l'aventure de la vie. Et toujours plus loin dans le livre, il va évoquer, sur fond de voix orphique, Baudelaire, l'itinéraire de Baudelaire, et notamment cette figure un petit peu du poème maudit, du poète maudit. Il dit, je vais pas vous lire parce que j'ai pas forcément le temps, mais il parle de cette nostalgie en fait qui l'habitait, de tout ce qu'il a pu traverser à ce niveau-là. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit, sa vision de la nostalgie, la mélancolie, de voilà. Il dit que c'est ça qui va finalement l'inciter à gagner des hauteurs pour trouver la vraie patrie des poètes et rendre la dignité des artistes dans leur mission sacrée. Et moi, ça m'a fait cogiter à...
Je peux répéter la...
Oui. Ouais, pardon. Bon, allez, on va... Ok. Allez, parce que moi, résumé, c'est pas mon truc. Alors... Non, je vais juste lire deux
phrases.
Ouais.
Ouais.
Non, mais ça va être mieux, tu vas voir.
Non, mais je pense que c'est vraiment que tu répètes, en fait.
Ok. Alors, pour trouver la vraie patrie des poètes, rendre la dignité des artistes dans leur mission sacrée. C'était un bout de citation. Voilà. Donc, à travers toutes ces expériences, donc, il dit réside cette nostalgie qui l'incite à gagner, voilà, par-dessus les contingences, les hauteurs, afin d'accéder aux sphères où se trouve la vraie patrie des poètes. Voilà, bref. Et donc, moi, ce qui me paraît intéressant ici, c'est que ce qui est de l'ordre, donc, on va dire, de cette nostalgie évoquée, c'est pas du tout un ressassement stérile du passé. Ça fait partie de la voie orphique. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de s'engouffrer dans les fissures du temps pour accéder à une mémoire qui va fertiliser le présent, en fait, et donner lieu à une forme, ce qu'on pourrait appeler une épiphanie spirituelle, c'est-à-dire un moment d'illumination où on va accéder, comme accéder à un secret perdu, mais qui pourtant est resté là, quelque part en nous, et qui va nous aider à... Comment dire ? À la fois défier un petit peu les lois de l'impermanence et les fluctuations auxquelles on est soumis, mais aussi c'est comme si, à travers la conscience de ce qui était perdu, donc soit des êtres aimés, des lieux absents, ou de toute la lignée de nos ancêtres, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le taoïsme, et il en parle aussi un peu, il y a, et d'ailleurs il se moque un petit peu, je trouve, à un moment des occidentaux, parce qu'il dit, oh, un occidental n'aurait pas formulé ça comme ça, parce qu'il y a vraiment chez eux, il y a cette conscience qu'on est le produit de tout ce qui nous a précédé, en fait. Et c'est cette mémoire-là, à la fois en tant que les poètes qui nous ont précédés, tous nos ancêtres, tout ce qui nous a habité de l'ordre de ceux qu'on a aimés, ou de ceux C-E-U-X, ou ceux C-E, y a quelque chose comme ça, voilà. Et c'est ça que va permettre la mélancolie, en fait, des poètes. Comme pour révéler un espace qui va être propice au dévoilement d'une autre dimension de l'existence, comme une, j'ai dit, une potentialité de retour ou de réassimilation de ce qui nous a donné vie un jour. Vous voyez, un instant où à la fois on va percevoir clairement l'extrême fragilité de l'existence et en même temps l'ampleur de sa beauté. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment... il parle d'un flux qui va maintenir les morts dans le courant vital, refuser leur néant, etc. C'est comme une manière aussi d'aller retrouver tous les enseignements perdus. Voilà, de se dire qu'on est héritier de quelque chose et qu'on essaye au fond de nous, que le poète à ce moment-là va essayer au fond de lui d'aller au prix, en fait, de quelque part de la souffrance, recueillir une forme de quintessence de ce qu'a été la beauté. Vous voyez ? Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé cette vision, ça m'a un peu illuminée. Et donc, voilà, en gros, la poésie serait cette manière de maintenir les traces perdues de ceux qui nous ont transmis quelque chose de ce que nous sommes, quelque chose de fondamental qui nous a constitués, qui nous constitue encore, qui continue de vibrer en nous comme notre capacité à aimer, à rêver, à saisir la beauté dissimulée dans l'ordinaire, etc. Je ne vais pas vous lire ça parce que c'est abrégé. J'ai juste ça pour être terminé. Donc ainsi, j'ai le temps juste de terminer ça. Ça va à peu près ? Ouais. Donc, un des points importants, parce que c'est vrai qu'il parle d'Adorno... Il dit qu'à un moment donné, il a vraiment eu cet éclair, à un moment donné, où il était dans une phase de travail très intense, de synthèse, d'un peu toute sa pensée à ce moment-là. Et il a dit qu'il a vraiment, ça lui a vraiment permis de réaffirmer quelque chose. C'est-à-dire qu'il dit qu'au contraire d'Adorno, c'est un philosophe qui a dit en gros qu'écrire un poème après Auschwitz était barbare. Il dit, moi, j'affirme exactement l'inverse. Il dit, en fait, il n'y a pas de... C'est par la poésie qu'on va réhabiliter l'homme. qui est un salut possible, car pour lui, il dit ça, j'aurais dû le citer, mais là, je fais que transformer un peu ce qu'il dit, mais que le lyrisme poétique, la poésie est puissamment humanisante, à un tel point qu'elle peut vraiment devenir un acte de résistance contre l'oubli de l'essentiel, et que c'est pas seulement qu'elle va exprimer l'inexprimable, comme il a été dit, ou toucher à l'indicible, ça va être vraiment une manière de rétablir un lien très authentique avec ce qui nous anime de plus puissant dans notre volonté de vivre, en fait. Et d'exprimer la vie au cœur même du chaos, justement. Vraiment une possibilité d'entrevoir une forme de rédemption, de renaissance, dans une invitation à ressentir toujours plus intensément la beauté, en fait, qui réside en chacun d'entre nous. Et qui va même nous inviter à refonder... Après, il parle de refonder une communauté d'amour, mais là, je vais pas vous lire ça. Mais voilà, c'est vraiment... ça va pour tout le monde.
Oui.
C'est vraiment, moi, ce que j'ai retenu. Il y a eu des moments forts, des vraies fulgurances dans ce livre. Et il y a eu vraiment ce moment où il parlait d'Adorno, où on sentait que pour lui, c'était un moment de puissante révélation et quelque chose qui l'a vraiment entraîné dans cette défense, finalement, absolue de la poésie comme force humanisante contre la barbarie humaine. Voilà. Et j'aimerais juste terminer, et après je me tais. Et d'ailleurs, oui, juste, c'est très intéressant parce que lui-même, il dit que c'est pas quelqu'un de... Pourquoi je pense à ça? Parce que on le prend beaucoup pour un sage. Il dit qu'il est souvent désemparé, en fait, quand il reçoit des lettres de gens désespérés qui lui demandent un conseil. Il dit, mais moi, j'ai été déséquilibrée toute ma vie par des passions, en fait. Il me dit, le moment où je vais retrouver peut-être une forme de sagesse, ça va être par la création, par l'acte créateur de dépassement qui pourrait apporter quelques lueurs. Voilà. Donc, je vais juste vous lire une dernière chose, parce que j'ai beaucoup aimé ce passage, voilà, et je crois que c'est peut-être les dernières feuilles qui restent. Et après, je me tais. J'ai aucune idée de l'heure, mais...
11h30. Tu vois, on n'a pas vu le temps passer, c'est merveilleux.
Non.
J'ai endormi personne.
Le métro n'est pas fini, la chanson.
C'est gens qui te terrifient comme ça, sur les horaires.
Non, mais même, c'est important que... Après, c'est aussi de rester en esprit de l'aide nos cafés, de l'échange, tu vois, et moi j'ai beaucoup de mal, il faut que vous le sachiez si vous êtes mes amis, que vous connaissiez mes défauts, et vraiment j'ai un gros défaut,
pour c'est ça, que si je suis encore votre ami,
ouais, c'est que j'ai beaucoup de mal à condenser, à synthétiser, pour moi tout est tellement dense, foisonnement, j'ai du mal à hiérarchiser les détails et tout, mais Jean, il y a comment je peux dire ça, il a du courage, voilà, d'aider mon collaborateur, parce que je pense que ça doit pas être facile à ce niveau-là, ma tendance à étirer les choses dans tous les sens. Voilà, je vais vous lire ce dernier passage. Voilà, je vais vous lire un dernier passage, si ça vous va, et après j'arrête.
Tu arrêtes de nous dire que c'est le dernier.
Ah si, cette fois c'est le dernier. Ouais. Franchement là, c'est vrai que j'ai marqué encore au cas où, j'ai marqué au cas où, page 211, citation sur le verbe, mais non.
Ça, on verra.
On va arrêter là. Voilà. Après, je vous invite juste à lire le livre qui est vraiment un très 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 beau livre.
En quelle année il était écrit ?
Eh ben, il me semble 2016, non ? Ah si. 2023 ? Hein ? C'était un 2000. Attends. C'est peut-être marqué. 2000. Non, ça, c'est l'année de la publication, mais.
Bon, ça doit pas être très. Sauf s'il a été en publié.
Pour moi, c'est récent.
Le copyright, puis le calendrier.
Je sais pas. Tu
à la fin de
l'année. En bas.
En bas, à la fin.
Non.
Mais c'est l'achevé d'imprimer. C'est le copyright.
Mais il est sorti il n'y a pas longtemps.
Dépôt légal, octobre 2022.
C'est le dépôt légal qui est intéressant.
Ça, c'est le dépôt légal.
2022, bah, c'est ça.
Mais ça veut dire qu'il est âgé de 80, 13, 12, 13 ans.
Oui, oui, mais il a écrit ça pour... Ouais. Et puis au début, il...
Après, moi, je croyais... J'avais lu, en fait, donc je croyais... c'était 2016 et qu'il était... Mais ok, non, ça donne encore plus de... Parce que écrire ça à 90, c'est incroyable. Donc, dernier passage. C'est un soir plein de douceur, nimbé d'une lumière flamboyante, qui se laisse emporter par le courant vers l'ouest où le soleil couchant, d'un geste englobant tout, disparaît, sans un mot d'adieu, derrière les nuages. Encore une scène de beauté qui s'ignore et qui s'efface, me dis-je. Mais je suis là, je l'ai vue, donc tout n'est pas en pure perte. La tiédeur des pierres me retient sur le balcon. J'assiste, émue, à l'arrivée de la nuit. Sur fond d'un bleu ténébreux apparaissent, les unes après les autres, les étoiles. Bientôt, au centre de la voûte céleste, s'étale de toute sa masse la Voie lactée, indifférente et fidèle, telle qu'elle était dans mon enfance. Pourtant, dans le même temps, je sais pertinemment que ce n'est pas elle, cette immense assemblée d'étoiles, qui nous enseigne. Faite de matière, elle ignore sa propre existence. Ce qui est capable d'enseigner et de faire comprendre, c'est la puissance par laquelle elle est advenue. Le cosmos nous enseigne que la dimension de l'univers est l'infini et que sa loi de fonctionnement est la rectitude. Je suis là, dans cette grandiose nuit, éclatante de splendeur, entre le fleuve céleste et le fleuve terrestre. Par rapport au volume incommensurable du cosmos, mon être est si minime qu'il semble inexistant. Mon œil n'est pas plus gros qu'un grain de raisin, et ma boîte crânienne pas plus grosse qu'une noix de coco. Et pourtant, je suis celui qui a vu et su. Au sein de l'éternité, fût-ce quelques secondes, tout n'est pas là pour rien, car cette splendeur a bouleversé mon être. Quel est cet inexplicable paradoxe ? La puissance créatrice, disons le créateur, qui a fait advenir le cosmos et la vie, quel est son dessein ? Pourrait-il se contenter des astres qui tournoient indéfiniment sans le savoir ? N'aurait-il pas besoin de répondants, d'êtres doués d'une âme et d'un esprit comme nous le sommes, qui donneraient sens à la création ? Le cosmos nous enseigne que l'univers a pour dimension l'infini et pour loi de fonctionnement la rectitude. Mais la vie est d'un autre ordre, qui comporte épreuves et dépassements. À nous de les assumer. Si nous sommes à même de penser l'univers, c'est que l'univers pense en nous. Au fond de l'écrasante nuit, une certitude s'impose à moi. L'aboutissement de la création n'est pas l'univers physique, mais bien la vie. Elle est en réalité l'unique aventure, celle de l'être qui, seul, implique le processus d'un devenir ouvert. Il s'agit là, pour moi du moins, d'un renversement de perspective, à une époque où dans le domaine de la pensée règnent en maître certains astrophysiciens qui nous impressionnent par leurs calculs et découvertes, sans tenir compte du fait qu'aucun astre ne nous égale en complexité. Mais la vie disparaîtra comme poussière au vent, m'objectera-t-on. Ma réponse, qu'en sait-on ? Nous qui ignorons l'origine, il ne nous revient pas de dire le mot de la fin. L'état actuel de l'univers peut changer, c'est probable, c'est certain, mais la puissance qui a été capable d'engendrer le cosmos et la vie ne les a pas créés, aussi bornés et à courte vie que nous l'imaginons. Pour ce qui est des états d'être à perspective ouverte, elle procède par transmutation. L'être est, et jamais n'en finira d'être. Rien non plus ne peut faire, comme dit Jean Kelevitch, que nous n'ayons vécu, que de toute éternité nous n'ayons participé à l'immarcessible aventure de la vie.
Oh, oui, yeah.
Ça veut dire quoi, immarcessible ?
Éternel, je pense.
Besoin de répondants.
Voilà.
Bon.
Super. Vraiment, ça vous a plu ?
Très bien.
Oui,
très
bien. Ouais, vraiment.
L'exercice était simple, mais tu t'en es bien tiré.
Non, vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que